Massage radio, c'est la première. Je me sens un peu nerveux là. Je suis un peu tendu. Heureusement, il y a Julien derrière les mallettes. Yannick qui a dit qu'elle venait mais qu'elle dirait rien. Mais peut-être à un moment, elle pourra dire quelque chose si elle a quelque chose à dire vraiment. Parce qu'elle n'a pas eu le temps de préparer. Parce que je me suis dit que personne n'allait venir, mais elle, elle est venue quand même. Donc peut-être il y a des gens qui vont venir. C'est une émission de radio. On va essayer d'en parler après. Tout à l'heure. On va faire un petit éphéméride pour commencer ce 21 novembre 2016. On part un petit peu sur les pentes de la Croix-Rousse.
C'est nous les petits canuts qui se la coulent douce de Saint-Just à la Croix-Rousse. Partout ils sont connus et bistin claquait pas la navette et le batin. Voyez comme ils sont chenus, c'est nous les petits canuts. D'humeur toujours joyeuse, je suis un canut de Lyon. Ma femme est dévideuse tout près du Gourguillon. Des canuts de la montée, c'est moi le plus malin. Je demeure aux pierres plantées, numéro 5-1. C'est nous les petits canuts qui se la coulent douce. Saint-Just à la Croix-Rousse, partout ils sont connus. Et bistin claquait pas.
Ouais, cette émission ne pouvait pas commencer sous de meilleurs auspices. C'était un 21 novembre à Lyon, des pentes de la Croix-Rousse. Voyez se soulever les ouvriers de la soie, les canuts, ceux qui tissaient les riches rubans des gouvernants, les chasubles d'or de la curetaille, ceux qui pourtant n'avaient pas de chemise à se mettre, ni même de linceul pour leur cercueil. Cela se lance à l'assaut du ciel. 1831, la République se tâtait entre parlementarisme et royauté. L'Algérie n'était pas encore colonisée et les ouvriers prenaient conscience de leurs intérêts contre ceux de la bourgeoisie. On en est loin, après un an, une semaine d'état d'urgence, on en est très loin, très loin, très loin, mais c'est pas fini.
Lève-toi, pauvre humanité, sors de la nuit profonde. L'aurore de la liberté luit enfin sur le monde. Lève-toi, brise tes fers, Dieu t'a donné l'univers. Marchons, prenons nos places, au banquet de l'égalité, en avant les voraces, vive la liberté. Hier, esclave méprisé, le peuple avait un maître. Aujourd'hui, le peuple a brisé la couronne et le sceptre. Fuyons un lâche repos, la France attend nos travaux. Marchons, prenons nos places, au banquet de l'égalité, en avant les voraces, vive la liberté. La terre a trop longtemps porté les têtes souveraines. Le niveau de l'égalité, les vœux républicaines. Jurons tous d'anéantir qui voudrait nous asservir. Marchons, prenons nos places au banquet de l'égalité. En avant les voraces, vive la liberté. Cessez d'arborer nos couleurs, cafards légitimistes. Craignez d'envenimer nos corps, fortunés égoïstes. Où notre justice enfin vous brisera dans sa main. Marchons, prenons nos places, au banquet de l'égalité. En avant les voraces, vive la liberté. Vous prêtres qui souillant l'autel par un commerce cynique, à prix fait nous vendez le ciel, fermez votre boutique, donnez mais ne vendez plus vos credos pour des écus. Marchons, prenons nos places, au banquet de l'égalité, en avant les voraces, vive la liberté. Tant qu'un tyran sera debout, nous aurons à combattre. Un républicain doit partout ou mourir ou l'abattre. Quand au lieu nos bras vengeurs courbent les fronts oppresseurs. Marchons, prenons nos places au banquet de l'égalité. En avant les voraces, vive la liberté. Lyon voyait ses flancs meurtris d'une infâme ceinture. Elle étouffait, ses nobles fils ont vengé son injure. Sous leurs bras électrisés, les forces ont pulvérisé. Marchons, prenons nos places, au banquet de l'égalité. En avant les voraces, vive la liberté. Trembleurs, que ferait votre main de canons et de poudre? Laissez au peuple souverain la justice et la foudre. Si nos tyrans ne sont plus, il reste encore des abus. Marchons, prenons nos places au banquet de l'égalité. En avant les voraces, vive la liberté. Marchons, prenons nos places au banquet de l'égalité. En avant les voraces, vive la liberté.
Voilà, on bouffera du riz, mais on le bouffera chaud, au feu, au bras zéro, le bras zéro qui réunit, celui des piquets de grève, celui qui réchauffe, la fogata, où on brûle tout ce qui nous a pesé pendant l'année. Voilà, du feu qui purifie, ou du feu qui réchauffe, en tout cas du feu de la cheminée, peut-être on va y aller petit à petit, du feu de l'allumette, du feu du briquet qui allume les clopes, du feu tranquille, quoi, voilà. Bon, c'est une tentative d'émission, donc c'est la première. L'idée de rallumer les brasiers qui consumeront le vieux monde. Voilà, c'est une proposition. Bah, c'est une proposition d'y aller brasier par brasier. On s'est dit qu'il n'y en aura pas qu'un. C'est d'y aller petit feu par petit feu. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, c'est l'idée un petit peu. L'idée, c'est aussi de faire, bah, voilà, pareil, commencer un peu maintenant, un peu à pas nombreuses, mais essayer de donner de la place, de faire en sorte qu'on puisse venir avec des petits bouts d'émissions et puis de construire ensemble.
Ouais, parce que c'est ça l'idée, c'est de faire une sorte de radio-école en fait.
Ouais, ouais. J'ai envie qu'il y ait une dimension comme ça, on va dire, un truc où là j'ai commencé à faire par exemple à des pads, des endroits sur internet, à des documents qu'on peut partager. Où il y a une petite série de petits formats possibles en fait pour intervenir. Alors c'est pas du tout limité, mais c'est pour donner des idées, genre des trucs, faire des faux, faire des témoignages, faire des entretiens, faire des montages ou des reportages, faire des échos urbains par exemple. Moi j'intéresse beaucoup à l'urbanisme, j'ai envie de parler de ça parce que j'ai l'impression que la ville, c'est quelque chose qui où il y a beaucoup de ce qu'on produit et de ce qui nous contraint, qui se projette dans la ville. Donc voilà, j'aime bien parler de ça. Mais ça peut se faire de plein de manières différentes, faire avec des fictions, des micro-fictions, des feuilletons, mais aussi des manières de traiter de la presse, par exemple. Ça peut être aussi des coups de gueule qui peuvent être faits en direct, etc. Donc l'idée, c'est de prendre le temps d'apprendre à faire de la radio, de venir avec des envies, peut-être des envies qui ne font pas toute une émission ou qui ne vont pas faire une émission toutes les semaines, de tous les ans ou même tous les mois de toute l'année, pour participer à ça. Il y aura aussi un peu des écoutes.
Donc l'idée là, c'est qu'on propose aux gens qui auraient envie de participer à une émission de radio, qui ne savent pas trop comment s'y prendre et qui auraient envie d'apprendre, de voir, de faire, de venir mettre son grain de sel dans cette émission sans forcément avoir à construire une émission d'une heure. Voilà, hyper construit toutes les semaines et tout ça, mais où on peut venir amener des sons de 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et de voir comment on les tisse ensemble, en fait.
Ouais, les tisser ensemble aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc là, à cet endroit-là.
C'est le rapport au canut que je dis ça.
Ouais. Mais tu vois, de tisser à cet endroit-là, tu vois, le bruit de la navette, on pourrait avoir le bruit de la navette, le tchouk-tchak, tchouk-tchak. De fabriquer ensemble, quoi, de prendre le temps, c'est-à-dire c'est pas peut-être apporter un truc et puis le poser là comme sur une étagère, mais de voir qu'est-ce qui peut en sortir, peut-être des fois avec un peu de temps, parce que je sais pas, si on apporte 5 minutes sur la ville ou sur la santé, ben peut-être pour faire une émission il y a quelqu'un qui peut apporter un bout de texte, mais ça va prendre du temps, tu vois, avoir un peu ce temps-là. L'idée, c'est de faire ça 2 fois par mois et avoir 2 autres moments, 2 autres lundis où il se passe autre chose, notamment des choses sur la radio. Il y aura déjà ça la semaine prochaine, j'en reparlerai, mais on écoutera quelque chose sur l'histoire de Canal Sud, fait par l'Intempestive, Juliette Vauclair, qui fait des émissions de radio assez chouettes, et qu'on a fait une sur l'histoire de Canal Sud, donc voilà, c'est l'occasion d'entendre un peu ça. Avoir d'autres moments où on laisse de la place à des personnes qui ont peu de place sur les ondes, du coup aller chercher des émissions, notamment dans le réseau Radio Rageuse, mais aussi Case Rebelle, etc. Toute une série de paroles qui, des fois, n'a pas tellement lieu et place sur les ondes. Et puis faire des écoutes, garder du temps, quoi, pour fabriquer de la radio, quoi. Moi, je sais pas, je me dis, même si peut-être ça fait un peu comme ça, à remuer les brasiers, mais vraiment petit à petit, quoi, vraiment avec de silex.
Et du temps pour fabriquer de la radio, du coup, une heure par semaine, ça fait un peu court. Est-ce que l'idée, c'est de qu'il y a du temps en plus pour préparer ces émissions-là?
Bah ouais, partir plutôt un rencard à partir de 17 ou 18 heures pour pouvoir se croiser. Donc, et après, c'est un peu à voir au fur et à mesure, parce qu'il y a toujours, en fait, c'est des moments de croisement, des moments d'atelier, mais il y a forcément des moments en dehors. Parce que pour aller chercher du son, en fait, la radio, ça prend du temps. C'est pour ça aussi l'idée de s'installer un peu dans le temps long. La radio, ça prend du temps. Faire une heure de radio, en fait, si on veut faire un peu du son, bricoler des trucs, travailler la forme, se faire écouter les choses, ça prend énormément de temps, quoi. 20 minutes, c'est... Pff. Et l'idée, c'est aussi d'occuper la radio, là, le 40 rue Alfred Duméril, là, pour construire ça, quoi. Juste, du coup, moi, j'aimerais vous faire écouter un truc, là... moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mon apprentissage de la radio, qui est vieux, quoi. Je veux dire, j'ai commencé à faire de la radio parce que c'était un boulot et j'y suis resté parce que ça m'a mordu, quoi. Mais pour plein de raisons différentes. Mais il y a eu un moment où j'ai découvert Radio Lorraine Cœur d'Acier et c'est quelque chose qui m'a vachement brassé. Et du coup, je voulais faire juste écouter un bout de ça. 4 minutes, ça parle de radio et voilà, ça parle un peu de ce qui me donne envie de faire une émission comme ça aujourd'hui, quoi.
Peut-être on contextualise un peu Lorraine Cœur d'Acier, que c'est vite fait en deux mots, c'était...
La Lorraine. La bataille de l'acier,
ouais.
La fin des années 70, la CGT qui pose une radio, comme beaucoup, elle en a posé beaucoup à ce moment-là, la radio, les radios de lutte, ça s'appelait, il y en a eu dans le coin aussi. Et il y a quelque chose qui va se passer à cet endroit-là. Ça va donner lieu à plein de rencontres, à plein de choses qui émergent, et c'est de ça dont ça parle là, dans ce petit entretien qui est extrait d'un coffret de CD où il y a aussi un film qui s'appelle Le Chiffon Rouge et qui est disponible à La Vie Ouvrière, l'édition de la CGT.
Et ben le micro pour moi c'est une revanche, j'ai pas honte de le dire. C'est un outil de lutte, oui, mais je m'en suis servi aussi comme un outil de revanche. J'ai une revanche à avoir.
Marcel Donati.
Il y avait une culture qui naissait dans la classe ouvrière grâce à l'LCA.
Sidérurgiste et militant CGT.
J'ai amené à LCA plus de 40 travailleurs pour s'y exprimer en tant que militant dans un secteur. Dans un secteur limité à 76 individus. Plus de la moitié sans monter un jour à leur radio, prendre le micro, s'y exprimer. Parce que LCA a permis justement à quelqu'un de pouvoir s'exprimer en tant qu'individu, en tant que lui-même, dans son entier. Mais c'est merveilleux, je ne sais pas, mais c'était quelque chose d'inédit.
Dans notre radio, moi je dis qu'elle est largement, je dis même très largement positive. Elle vit par un gros syndicat qu'on appelle la CGT, elle vit par une population riche dans sa diversité, et elle vit par la richesse individuelle de chaque individu. Moi je dis que c'est merveilleux chaque individu.
La radio, elle permet quoi justement? Elle permet à l'homme de retrouver son identité. Grâce à la radio, enfin moi je le dis, hein. Moi je suis labineur, moi l'usine, moi. Moi on m'a appris qu'à faire des barres, qu'à laminer des barres, laminer des barres, laminer des barres. Bon, à un moment donné, par exemple, j'écrivais. Je mettais des manifestes à l'intérieur pour parler aux affichages. J'étais conscient et je le sentais que les travailleurs appréciaient. Des lamineurs comme moi. Bon, ils appréciaient, c'était des manuels comme moi. Des ouvriers comme moi. C'est tout, je m'adressais qu'à eux. Et puis tout d'un coup, avec la radio, les intellectuels que je détestais, parce que j'ai toujours détesté les intellectuels. Tout d'un coup, il y a eu la radio, cette confrontation avec les intellectuels. Confrontation, je dirais même violente à un moment donné. Violente à propos des termes employés. Et on m'a découvert que j'étais un intellectuel comme eux. C'est quand même grave. Important et grave à la fois pour moi. Parce qu'à un moment donné, je dis, qu'est-ce qui se passe? Si je suis compris par d'autres gens que par les travailleurs, est-ce que des fois, je ne pencherai pas du côté de la bourgeoisie ou du côté des têtes blanches, des gribouillards? C'est peut-être dangereux. Bon, j'ai su analyser là aussi, et effectivement, La démarche que j'avais vis-à-vis des travailleurs, c'était une démarche intellectuelle, tout en étant travailleur, tout en étant manuel. Mettre des mots un au bout de l'autre et intéresser par exemple un journaliste, moi, ça ne m'a même pas venu à l'esprit. C'était impossible pour moi. Discuter avec un journaliste, discuter avec un instituteur, discuter avec un toubib, c'était impossible. Je croyais impossible. Et puis ça s'est réalisé. Alors ce que je suis convaincu, c'est qu'eux, ils ont fait l'opération inverse aussi. C'est qu'ils ont su justement mettre un petit peu leur oreille près du cœur des travailleurs. Et ils sont aperçus que les travailleurs n'étaient pas non plus des bêtes à produire. Ils savaient réfléchir, les travailleurs, ils savaient penser aussi. Mais ça, c'est le résultat de la radio, ça.
Ça, je le quitte tout go. Moi, une radio ouverte, moi, l'ouverture, on ne m'en a jamais fait bénéficier. Et je ne comprenais pas. Je dis franchement, je ne comprenais pas, malgré tout mon militantisme, ma bonne volonté, tout ce qu'on voulait, je ne comprenais pas. Moi, pendant 2 mois, je n'ai pas mis les pieds à la radio. Et j'y allais, hein. J'y allais parce que j'étais conscient. C'est ça qui était formidable, parce que je sentais, j'étais en contradiction, et je sentais que c'était important. Donc j'y allais à la radio. Je me mettais devant l'aquarium, devant la vitre, je regardais les gens dedans, je ne mettais pas les pieds. Mais j'y allais, qui se sent moi me disait, il faut qu'il y aille. J'y allais pratiquement tous les jours. Et je n'osais pas mettre les pieds dedans. Surtout quand ils ont fait passer le comme Bénédicte et je ne sais qui, là, s'exprimer, je dis, c'est pas vrai, va. C'est pas vrai. Mais bientôt, on fera passer la pègre dedans, mais c'est pas possible. Et puis oui, c'est possible. Mais oui, il n'y en a peut-être pas assez qui veulent s'exprimer de l'autre bord. Ça puisse amener le dialogue, la discussion, la confrontation. C'est riche, la confrontation.
Passer de l'autre côté de l'aquarium.
Voilà, dans l'aquarium, en dehors de l'aquarium. Donc l'ELSA, c'était aussi un endroit, quoi. C'était dans la mairie de Longwy. Donc on pouvait y aller. Et l'idée là aussi, c'est ça, c'est qu'on puisse venir dans cette radio, passer de l'autre côté de l'aquarium, mais avec du temps, parce que je pense qu'il faut du temps pour prendre la parole et se mettre à parler. On ne donne pas la parole à personne, en fait. Les gens la prennent par un chemin qui peut être tortueux, qui peut être long, qui peut être... Mais ce chemin, il faut qu'elle le fasse, chacune, quoi. Et l'idée, c'est un peu ça. Et aussi, peut-être, voilà... de justement tous les mois parler de la radio. L'idée de faire écouter l'histoire de Canal Sud la semaine prochaine, c'est aussi cette idée de qu'on parle de radio, en fait. Qu'est-ce que ça fait, la radio? Où est-ce qu'elle est, la radio? Tout à l'heure, on va écouter un bout de l'intempestive là, sur les radios libres pour qu'on se rappelle à quoi ça sert, en fait, d'où ça vient cet appareil et comment est-ce qu'on peut s'en saisir, quoi. Il y a pas mal de choses qui sont possibles. C'est vraiment un média peut-être assez qui peut se bricoler assez facilement, même si là on a pas mal d'appareils, mais on a cette chance que ces appareils soient collectifs et dans une association à Canal Sud, mais il y en a d'autres, des radios. Et vraiment l'idée, c'est de faire peut-être une espèce de CUMA, quoi, hein, un collectif d'utilisation de matériel audiophonique pour fabriquer ensemble du son, de la parole, et puis tisser. Je pense qu'on tisse des émissions et aussi du discours, et on prend de la place, on prend de la confiance et on apprend des unes des autres, quoi.
Et on fabrique de la pensée commune.
C'est ça, ouais, mais pas forcément plus la même, quoi. Mmh. Hein, mais penser ensemble, quoi.
Des pensées communes. Ouais.
Et du coup, en plus, ça se télescope de manière à la fois hasardeuse, mais à la fois très, très chouette, avec une initiative qui vient du site internet yata.info, qui, la semaine prochaine, se réunit ici à Canal Sud, au 40 rue Alfred Duméril, pour les personnes qui sont loin, ou qui ne connaissent pas, le collectif d'entraide à la rédaction du site yata.info, où il y a un peu des envies aussi de faire, pourquoi pas, des fiches techniques sur la justice en utilisant la radio, faire de l'info, mais bon, il faut déjà la digérer. Donc cette idée peut-être de faire des ateliers, ça sera à partir de 19h, donc lundi 28. Et donc ça va pouvoir venir aussi alimenter cette dynamique de fabriquer, d'apprendre à fabriquer ensemble par des ateliers, des échanges, des moments d'écoute, apprendre à fabriquer de la radio, à s'approprier cet outil-là.
Ouais. Et C'est un beau projet.
C'est un beau projet, ouais, c'est un beau projet.
Mais
ouais.
Oui, c'est un peu cette notion d'atelier, en fait. C'est, tu marquais dans ta note d'intention, on va appeler ça comme ça, faire une fabrique de sons,
ouais.
En multipliant les rencontres et les écoutes.
Ouais.
Ouais, c'est un peu ça, c'est venir à la radio, voir comment ça se passe, comment ça marche, et c'est pas sorcier, en vrai, quand on met les mains dedans. Et de voir comment on peut construire ensemble du son sans enjeu non plus. Parce que je trouve que c'est une dimension importante, ça aussi. Tu parlais de donner du temps, de prendre le temps. Et ça peut faire peur à des gens qui n'en ont peut-être pas beaucoup.
Ah.
Et où en même temps, c'est aussi là l'occasion de... Comme c'est pas assurer une émission toutes les semaines, voilà, c'est aussi l'occasion de donner le temps qu'on a et qu'on peut donner, et qu'on a envie de donner. Pour bricoler un peu de son, quoi.
Ouais, après, il faut se méfier, c'est ultra chronophage. Hein. Une fois qu'on a mis le doigt,
il faut
que les gens le sachent. Hein. C'est comme d'autres produits absolument très agréables, mais qui peuvent amener à une certaine dépendance. Mais je veux bien faire écouter le son. Peut-être on va en zapper un des deux, mais ce Cazeneuve, qui est une rue de Toulouse, mais qui est aussi le ministre de l'Intérieur. Et une petite réponse, ce qu'on peut faire avec la radio. Moi, je veux bien faire écouter ça, c'est 50 secondes.
C'est l'état d'urgence qui menace les libertés aujourd'hui. Ce n'est pas le terrorisme, je le répète. L'état d'urgence signifie l'abandon de l'état de droit. Nous combattons la démocratie avec les armes de la République, la force de nos valeurs, nos forces de police et de gendarmerie, notre administration. Mais je tiens à leur rendre ici hommage, en plus du courage, de la lucidité et du discernement dont les forces de sécurité intérieure font preuve tous les jours pour assurer la sécurité des policiers et des gendarmes, en exposant la vie souvent des Français.
Voilà, petite réponse. Il y a pas mal de gens qui font ça. Polémique, c'est la voix off ailleurs. Et sinon, voilà, c'est une façon aussi de répondre, de digérer. Ce qu'on morfle en fait en permanence quand on écoute la radio, la violence qu'on subit quand on écoute la radio le matin et qu'on s'en prend plein la tête quand on entend ce genre de personnage ou même d'autres, hein, là il y avait un petit bout avec Onfray, mais on va passer outre, mais arriver à reprendre un peu la main, je trouve que c'est pas mal. En plus ça peut être assez marrant,
ouais, à comprendre aussi cet outil qu'est le montage, qui est assez magique et avec lequel on peut faire plein de choses, et qui pour le coup demande pas forcément d'aller sortir, prendre du son, savoir qu'est-ce qu'on va prendre comme son, interviewer des gens et tout. Ça peut être aussi récupérer des sons sur internet ou d'autres radios, d'autres télés et tout ça, pour en faire des trucs rigolos, quoi. Du détournement.
Ouais, puis ça peut se bidouiller pas mal, quoi. Ouais. Ça peut se travailler, quoi. C'est ça qui est bien. J'hésite à me glisser sur un texte, à moins qu'il y ait d'autres avis, mais sinon, c'est peut-être l'autre patte qui m'amène un peu à faire de la radio comme ça maintenant. C'est Bertolt Brecht, qui écrit sur la radio, donc en 1932. Alors Bertolt Brecht, c'est un type un peu qui est assez connu, hein, mais qui est un communiste convaincu. Vous le verrez quand ça commence. Donc, qui est pour une société organisée où on choisit ce qu'on produit. Donc, vous allez voir, il s'étonne que la radio soit produite alors que personne n'a rien demandé. Et en fait, il dit, mais en fait, on ne sait même pas s'en servir. Personne n'a rien demandé. Et donc, il propose à un moment, c'est un discours sur la fonction de la radio, donc 1932, et il propose que la radio soit un appareil de communication. Alors, je pense que je prendrai le temps de le monter, mais toujours est-il que son idée principale se résume à ce moment-là, quand il commence à en parler de manière positive de la radio. Parce que d'abord, il dit « ça ne sert à rien ». On n'entend rien, ça n'intéresse personne. Il dit, on peut parler à tout le monde, mais à qui ? En fait, ça n'intéresse personne. Et il dit, mais bon, pour parler maintenant de manière positive, c'est-à-dire pour dépister ce qu'il y a de positif dans la radio, voici une proposition visant à transformer sa fonction. Il faut la transformer d'appareil de distribution en appareil de communication. La radio pourrait être le plus formidable appareil de communication qu'on puisse imaginer pour la vie publique. Un énorme système de canalisation, ou plutôt elle pourrait l'être si elle savait non seulement émettre, mais recevoir. Non seulement faire écouter l'auditeur, mais le faire parler. Ne pas l'isoler, mais le mettre en relation avec les autres. Il faudrait alors que la radio, abandonnant son activité de fournisseur, organise cet approvisionnement par les auditeurs eux-mêmes. C'est pourquoi tous les efforts de la radio pour donner aux manifestations publiques un caractère réellement public sont absolument positifs. Alors, il reste quand même un peu prudent, et c'est ça qu'on aime chez lui. Il dit, bon, on ne peut pas non plus faire que la vie publique, elle soit sympathique, parce que par nature, en fait, elle ne l'est pas, quoi. Donc, il n'a pas d'illusion forcément réformiste sur la vie publique. Mais il nous dit, à un moment, qu'en fait, pour sa part... Attendez, je suis en train de me perdre, je vais le retrouver, voilà. Dès lors, on voit une invention technique aussi naturellement appropriée à des fonctions sociales d'importance décisive, utilisée avec un souci aussi angoissé de la maintenir sans conséquence. En la cantonnant dans les conversations les plus innocentes, on se pose irrésistiblement la question. Est-il donc absolument impossible d'opposer aux puissances de l'élimination l'organisation des éliminés ? La moindre petite percée sur ce front aurait nécessairement un succès naturel et immédiat, de loin supérieur à celui de toutes les émissions de caractère culinaire. La moindre campagne ayant des perspectives, des conséquences claires, c'est-à-dire réellement emprise sur la réalité et visant à un changement de la réalité, même sur des points d'importance modestes, par exemple pour des éducations de travaux publics, assurerait à la radio une efficacité incomparablement plus profonde et lui donnerait une toute autre signification sociale que ce rôle purement décoratif qu'elle a actuellement. Quant à la technique à développer pour toutes ces entreprises, elle doit être orientée dans le sens de sa mission fondamentale, non seulement que le public soit éduqué, mais qu'il soit lui-même éducateur. Voilà un peu, moi, ce texte un peu... Alors, en plus, il croise plein de choses sur la technique, etc. Donc, de Bertolt Brecht. Et, d'ailleurs, si vous le cherchez, il est dans un livre qui s'appelle « Sur le cinéma ». Théorie de la radio, et il a d'autres textes et ils sont sur le cinéma. C'est vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a. Je me suis toujours demandé comment en 1932 on pensait déjà à faire ça et le temps que ça a pris finalement pour arriver sur des. Sur les radios libres et sur la diffusion de la radio et avec toujours cette même difficulté finalement où on nous laisse peu de place pour élaborer des discours. Quand on tend le micro sur un micro-trottoir, soi-disant quand on donne la parole, c'est toujours des micro-moments et on a peu de temps pour construire cette parole et se faire vraiment éducateur et éducateur de nous-mêmes, en fait, au final.
C'était quoi la radio à l'époque de Brecht ?
Le dispositif technique ou les radios
La radio qui critique, en fait.
C'est la radio du Reich, du coup. On est en pleine République de Weimar, en Allemagne, en 1932. Donc un an plus tard, la radio va être utilisée pour galvaniser les masses et donner l'une des catastrophes que l'on sait. Hein, on en connaît d'autres, des catastrophes, mais celle-là a été pas mal quand même. Donc l'arrivée du nazisme en Allemagne. Et c'est de cette radio dont il parle. Alors je crois qu'il y a à ce moment-là peu de radios différentes.
Ouais.
Si ce n'est, c'est toujours du gros matériel, etc., mais il parle d'une radio, en plus on n'est pas du tout dans les mêmes situations où aujourd'hui on a des enregistreurs numériques, on a des ordinateurs qui font qu'avec très peu de choses on fait du montage, on fait...
Oui, que le matériel était très lourd à l'époque.
Un peu.
Ouais, qu'on n'en est plus là.
Radio Canal Sud 92.2, 40 rue Alfred de Miril. Numéro de téléphone 05 05 61 63 53 36 95 pour l'antenne. Et pour le bureau c'est le 05 05 61 25 95 43. Voilà. Canal Sud de 92.2. Voilà.
Canal Sud. Et alors, pourquoi t'es venu, toi ? Qu'est-ce qui t'a... Pourquoi ? Parce que en fait, moi, je pensais que j'allais être seul. Et en fait, non, je n'étais pas seul, déjà.
Et moi, je veux passer un papier avec une présentation d'émission qui est sortie du commun, avec en partie des moments d'écoute ce que j'ai fait toute la première partie de cette émission, parce que c'est bien de pouvoir prendre du temps justement pour écouter d'autres choses qui se font, de pas être juste à tête dans le guidon sur les émissions qu'on fabrique nous-mêmes. Donc voilà, prendre ces temps-là pour écouter d'autres choses et du temps aussi pour expérimenter d'autres formes de création radiophonique. Là, je reviens tout juste des rencontres de radio qui sont faites à 10 cette année et je reviens avec plein d'idées, plein d'envies de créer des choses, pas forcément avec une idée forcément derrière la tête, mais vraiment expérimenter le son, le travailler, le retourner, essayer de faire des trucs avec, quoi, trouver des jeux, des concepts. Par exemple, là, aux rencontres, on a lancé un cadavre esqui radiophonique qui a hyper bien marché. En fait, c'est simple pour permettre à plusieurs personnes de participer, de créer déjà une chose à plusieurs. L'idée, en gros, on fabriquait une minute de son. C'est-à-dire qu'on peut juste prendre son enregistreur et enregistrer pendant une minute, ou bien prendre des sons qu'on a déjà sur notre ordi. On prend les 10 dernières secondes, on les donne à la personne d'après, qui elle aura donc 10 secondes qu'elle va écouter, et après recréer, poursuivre, refaire une minute de son, et etc. Reprendre que les 10 dernières secondes et la refiler à quelqu'un d'autre. Voilà, du coup, après, quand tu copie-colles tous les morceaux les uns après les autres, ça te fait une création qui a été faite par plein de gens, voilà, sans prétention, et ça marche quand même assez bien, parce que justement, il y a ces 10 secondes qui font le lien.
Et ça, tu sais, c'est écoutable quelque part, ou on peut le récupérer, on pourra le passer dans Bras Zéro ou...
Ouais, carrément. Nous, on l'a passé dans l'UE approuvé la semaine dernière, entre autres, d'autres lectures, parce qu'on avait aussi, on a participé à la nuit de la lecture qui s'est déroulée pendant les rencontres. Donc il y a ça, et après, il y a donc le cadavre esqui introduit et extroduit, je ne sais pas comment on dit, par une espèce de sketch qu'on a écrit en rentrant des rencontres, puisqu'on était complètement déprimés de la fin de ces rencontres.
Et donc, où c'est trouvable sur...
Donc, Canal Sud, le site de Canal, lui est approuvé, et peut-être en mots-clés Rafale.
C'est ça, c'est l'émission qui est consacrée au fanzine Rafale, ouais. Au niveau du titre.
Ouais, c'est ça.
D'accord, de la semaine dernière, super.
Voilà, quoi d'autre? C'est ça aussi. J'ai d'autres émissions à Canal. Du coup, ça prend déjà beaucoup de temps. Donc, j'avais envie, ça me plaisait aussi cette notion de radio-école pour pouvoir m'investir un peu, pas forcément tout le temps, tester des choses, voilà, rencontrer d'autres personnes avec qui faire de la radio, quoi.
Ouais, c'est un peu l'idée. Et puis aussi que ça puisse peut-être des fois irriguer sur d'autres émissions, que ça puisse faire du croisement avec les émissions, en fait. Un truc que j'aimerais bien faire, c'est peut-être venir vous voir pour savoir comment vous faites l'émission, pour en parler ailleurs. Et j'ai l'impression que souvent aussi, on est cloisonné dans des émissions et qu'on peut faire circuler comme ça du son. Et c'est marrant parce qu'on pourrait imaginer un cadavre esqui Canal Sudien où on suivrait le sens de la grille, par exemple. Où, on pourrait faire 10 minutes et suivre le sens de la grille. Moi, déjà, j'avais envie de faire un petit pot-pourri des génériques de Canal Sud à un moment.
Espèce de zapping, quoi.
Ouais.
Tout ce qui s'est entendu, tout ce qui s'entend sur les ondes.
Ouais.
On devrait faire ça tous les ans dans le best-of 2016 de Canal Sud.
Le best-of 2016. Mais en plus, on ne devrait pas du tout s'arrêter à Canal Sud, on devrait aller dans d'autres radios aussi. Et je voudrais dire un truc, c'est que si Bertolt Brecht dit que les émissions culinaires, c'est pas bien, j'aurais quand même une petite dédicace à certaines qui font des émissions culinaires et que c'est très bien, les émissions culinaires aussi. Et il n'y a pas de petites émissions... D'ailleurs, on s'écoute un petit peu, peut-être, on va s'écouter un petit son sur les radios libres. C'est l'Intempestive qui avait ça, donc Juliette Vauclair. Elle a fait un entretien. Alors, c'est pas du poisson frais, c'est assez vieux, mais vous allez voir, il y a toute une série. Si vous allez sur son site, l'Intempestive, on mettra un lien sur le site de Canal Sud. Et puis, on en passera d'autres. On passera donc Canal Sud la semaine prochaine. Là, c'est un entretien avec Jacques Sonsin. C'est un co-auteur avec Jean Bénétière de Au cœur des radios libres. C'est en 89 à l'Harmattan, paru, hein, on parle de vieille barbe, hein, et c'était le président de la Confédération nationale des radios libres, etc. Donc il nous parle un petit peu de comment c'est arrivé les radios libres. Voilà, c'est un point de vue sur ce qui a donné la possibilité aujourd'hui d'avoir des radios.
Envers et contre tous, la voix de la France restera entendue de nos compatriotes d'au-delà des mers. Les ondes iront porter le message de la patrie aux quatre coins du monde, à Madagascar comme en Syrie, en Nouvelle-Calédonie comme à la Martinique, en Indochine comme en Afrique.
Question insidieuse. Pourquoi ne pas réserver l'usage exclusif de cette invention admirable, l'imprimerie, à la confection et à la publication du journal officiel ? Qui ferait cette proposition en séance plénière de la Chambre des députés, outre qu'il récolterait un certain nombre de voix, au moins celles de messieurs Tixé, Vinancourt et Tedjen, êtres épris de liberté, serait assuré de bénéficier d'un précédent assez remarquable. Car il existe en France un organisme qui s'est approprié avec une absence de vergogne parfaitement délicieuse le monopole d'une invention dont l'importance est au XXe siècle plus grande encore que celle de l'imprimerie. Cet organisme, la radiodiffusion française, est une branche annexe de ce corps vague appelé État qui revêt les apparences d'un fromage de gruyère géant dont on distribue les trous au public et la matière aura censé représenter le dit public au sein du fromage en question. Bien plus encore que les émetteurs libres, c'est-à-dire assujettis par les annonceurs, la radio française est au service d'un intérêt particulier, celui de l'État, que nous avons défini plus haut. Il y a bien longtemps que ce groupe de gens qui se nomment État ont cessé d'être au service du citoyen pour se préoccuper exclusivement de leurs propres intérêts. Cette bande de chichnoufs qui paralyse un moyen de diffusion aussi puissant que la radio nous épargne peut-être la proclamation sur les ondes à longueur de journée des bienfaits de la purge du manoir. Mais il nous cache soigneusement le fait que, dans l'état présent de la technique, des tas d'émetteurs privés pourraient subsister, au moins en MF, sans grands frais et sans publicité, en laissant à chacun la faculté de s'exprimer. Qu'un état monopolise la presse, hors de nos frontières, on crie, non sans raison, à la dictature. Et on le vilipende. Mais que notre état, qui n'en est plus à une saisie près, monopolise ce moyen incomparable, plus puissant encore que la presse, et nul ne proteste. La presse, encore moins que tout autre, qui sait trop bien à quelle concurrence elle aurait alors à s'attaquer. La mainmise de l'État sur la radio est une filouterie du même ordre que celle jadis du roi sur le sel. Boris Vian, En avant la Zizik, 1966.
L'histoire de la radio est quand même une chose récente, puisqu'elle date du début des années 1900. Les premières émissions de radio ont eu lieu en 1901, 1903, 1906, suivant les pays. En France même, il y a eu beaucoup de gens engagés dans la création de ces radios. La radio a commencé à peser en tant que média de masse à partir des années 20. Très rapidement, elles ont été mises sous la coupole du ministère des PTT. Il faut savoir que depuis Louis XI, les PTT sont un monopole d'État. Donc la radio
ça remonte loin,
a hérité de ce monopole. Mm. Mais immédiatement, des gens ont voulu faire des radios privées. Le pouvoir s'y est pas vraiment opposé. Il y a eu des tentatives, des débats à l'Assemblée nationale, etc. Mais finalement, une trentaine de radios privées se sont installées en France. Et dans les années 30, le ministre des PTT a publié un décret qui, en réalité, permettait de juxtaposer les deux secteurs. Le secteur public de la radio, la télévision n'existait pas encore, elle a commencé, les premières émissions de télé ont commencé pendant la guerre et elle a commencé vraiment à exploser après la guerre, dans les années 50. Donc les deux secteurs coexistaient, un secteur privé, un secteur d'État. Pendant la guerre, les radios, dans l'ensemble, ont collaboré. Tout le monde se rappelle le slogan Radio Paris est allemand, qui était un des slogans de la résistance mis en musique par Pierre Dac, exactement. À la libération, le gouvernement qui s'est mis en place en a profité pour interdire toute radio privée, confisquer tous les matériels qui n'appartenaient pas à l'État et mettre en place un monopole d'État, cette fois-ci dur et intransigeant, ne laissant aucune possibilité pour des radios privées. Sauf que quelques radios se sont mises en place dans des territoires périphériques à la France, Radio Monte-Carlo, Europe 1, Sud Radio, etc., Andorre, Monaco, le Liechtenstein, etc. Ces radios ont constitué ce qu'on appelait les périphériques. En fait, il y avait un monopole en France et on pouvait capter des périphériques qui étaient tenus par des amis du pouvoir parce que c'était des grands patrons de l'industrie qui possédaient tout ça. Et donc, on avait 3-4 périphériques plus les radios du monopole. Et après 68, de plus en plus, cet accord avec le monopole des partis, en particulier des partis de gauche, va exploser sur la réalité sociale. Des radios ont commencé à se créer. La première radio qui s'est créée en 68, évidemment, était une radio étudiante qui s'est mise en place en 1969 à Villeneuve-d'Ascq, qui sont nos confrères de Lille, qui existent encore, qui s'appellent Radio Campus à Lille, qui sont toujours d'ailleurs sur le campus de Villeneuve-d'Ascq. Et puis il y a eu des radios écologistes, des radios gauchistes, des radios syndicalistes. Enfin, bon, chaque fois qu'il y avait un problème où les gens ne se sentaient pas représentés, ne retrouvaient pas leurs paroles dans le service public, eh bien, on créait une radio et on essayait de prendre la parole de force avec TDF qui brouillait, avec les flics qui couraient. TDF était là pour faire respecter la police des ondes. Il y avait des flics qui saisissaient les émetteurs. Et tant que les émetteurs n'étaient pas saisis, TDF brouillait. C'est-à-dire envoyait un signal sur la longueur d'onde sur laquelle on émettait, pour rendre inaudible la réception. Alors, l'attitude des employés de TDF a changé. Par exemple, lors de la lutte de la sidérurgie en Lorraine, à Longwy, lorsque Lorraine Cœur d'Acier a été mis en place, dans un premier temps, les TDF a brouillé. Il y a eu des manifestations de la CGT, la CGT interne à TDF qui a mobilisé aussi. Et finalement, les employés de TDF ont refusé de continuer à brouiller. Donc il a fallu trouver d'autres solutions. Le pouvoir est même allé jusqu'à envoyer des hélicoptères pendant les émissions
pour les rendre inaudibles. Oui.
Pour essayer de les rendre inaudibles. Enfin, donc il y avait toute une panoplie pour garder le monopole.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien. Rien que de la musique, ce ne sera rien, rien que des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi.
Et en même temps, sa rentrée, et ça il faut bien le comprendre, c'était un peu le double visage de mai 68, entre ce qui était des aspirations au changement, à la libre parole, à la révolution, et l'aspiration au modernisme, à une société plus huilée, plus moderne. Et dans ce domaine, dans le domaine de la radio et de la télévision, beaucoup de gens souhaitaient qu'il y ait des radios libres, que la publicité soit autorisée, que le commerce puisse se faire à travers la radio et la télévision. Et dans cette période, les deux aspirations existaient, qui sont manifestées par des fédérations distinctes, l'ALO qui était plutôt pour la publicité, la FNRL qui était contre.
Donc,
au début.
L'ALO, l'Association pour la libération des ondes, qui a été créée en 77.
Voilà, et la FNRL qui a été créée en 77 aussi, au congrès de fondation de Lyon.
Fédération nationale des radios libres.
Voilà, qui donna plus tard la Confédération nationale des radios libres. Et donc, ce sont des fédérations distinctes et des gens qui avaient des aspirations distinctes en créant ces radios.
C'est-à-dire, l'ALO était directement favorable à la publicité.
Oui, était favorable à la publicité. Mais malgré tout, les radios qui étaient adhérentes à l'ALO faisaient partie, parce que dans toute la période pirate, ce sont les militants qui ont tenu le haut du pavé. Il y a bien eu Radio Fil Bleu à Montpellier qui a été une exception.
Il y en a une,
il n'y en a pas eu 150. Les autres radios, les gens militaient, mouillaient la chemise et prenaient des risques pour dire quelque chose. soit le message écologiste contre les centrales nucléaires en particulier, à Fessenheim, à La Hague, etc., ou à Malville, soit le message syndicaliste, soit un message plus politique comme Radio Onde Rouge à Belfort. Enfin bon, il y avait des messages, et c'est ceux qui portaient ces messages qui étaient tête de pont. Mais derrière, il y avait quand même une vague sympathie, il y avait une sympathie assez lutte dans l'idée de libéraliser les ondes et de passer à autre chose.
Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait comme...
Des choses qui a changé quand qui s'est passé quand Mitterrand a été élu en mai 1981, ce fut les dizaines et dizaines de milliers, même peut-être plus de 100 000 personnes qui se sont jetées dans la création de radio libre. Il y a eu 1500 radios qui se sont créées dans les mois et l'année qui ont suivi. Et chacune de ces radios était animée par près de 100 personnes. Il y avait un monde de fous, c'était la prise de parole par l'entremise de la radio dans tous les secteurs, associatifs, politiques, enfin, toute forme de radio se sont créées. Et donc, Georges Filliou, qui était ministre de la Communication, a essayé de freiner le mouvement. Dans un premier temps, il a demandé à TDF d'arrêter le brouillage, parce que la loi sur le monopole était à continuer à perdurer pendant quelques temps. Et une première loi a été faite immédiatement, parce qu'ils y étaient obligés devant ce raz-de-marée radiophonique qui s'était levé. Cette première loi ne mettait pas fin au monopole, mais introduisait des dérogations au monopole. Un an plus tard, une deuxième loi a été votée par le Parlement, qui, elle, à ce moment-là, instituait la Haute Autorité de l'Audiovisuel, mettait fin au monopole, créer un fonds de soutien à l'expression radiophonique pour les radios qui allaient être autorisées et interdisait la publicité sur les ondes de ces radios.
Donc en 82, la Haute Autorité de l'Audiovisuel est créée, qui est créée pour essayer d'organiser le paysage, parce que l'explosion de radio libre fait un peu peur à l'État. Et 82, peu après sa nomination, elle délivre une première série d'autorisations pour des radios. Et lesquelles ? Quelles radios sont autorisées ?
D'abord, la Haute Autorité va mettre comme critère important d'autorisation, alors il y avait plusieurs critères d'autorisation, la diversité des opérateurs, enfin bon, il y a quand même des choses qui n'étaient pas inintéressantes. Malgré tout, ils ont de plus en plus mis en avant la viabilité économique des associations, et donc ont tendance à donner des fréquences à des gens qui avaient, comme on dit, les reins solides, c'est-à-dire des choses derrière, et ces choses, qu'est-ce que c'était ? C'était des entreprises commerciales, etc. Ouais. Et ils ont donné des fréquences à des équipes qui, à l'évidence, n'avaient d'autre intérêt de demander une fréquence que de faire du commerce avec.
Et tout aussi intéressant, quelles sont les radios qui sont écartées ? Il y avait un certain nombre de radios qui avaient réussi à s'imposer comme radio pirate, par exemple Radio Libertaire, ou tu parles aussi de Radio Voca dans ton bouquin, Radio Mouvance.
Mais Radio Voca et Radio Mouvance ont été écartées. Radio Mouvance était une radio très engagée, très militante, très... ça ne plaisait pas. Ça ne plaisait pas, il respectait pas l'ordre des choses, il respectait pas les limites que le pouvoir fixait, et donc ils n'étaient pas autorisés. Radio Voca, c'est pareil, c'est une radio qui défendait des thèses indépendantistes qui ne plaisaient pas au gouvernement. Si tu veux, il y a eu dès le départ, par rapport aux radios, des sanctions, des réalités. Alors, c'est un certain nombre de radios... ont été interdites par la Haute Autorité, n'ont pas été autorisées par la Haute Autorité. D'autres radios seront interdites et écartées par la CNCL, beaucoup plus à droite, et qui a pratiquement interdit tout le monde, d'ailleurs, à l'époque. Donc, il y a eu vraiment, pour l'autorisation de ces radios, il y a eu des batailles qui ont duré quelques années pour arriver à avoir une véritable diversité et où les héritiers de ce qui avait été les radios pirates puissent retrouver leur place et leurs aspirations quand ils se sont battus pour les radios libres.
À cette minute, des milliers de chats se feront écraser sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira « Elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. » À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio. Thank you. de la musique, juste des mots, des mots.
Restez là. Vous êtes là encore ? Restez là. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la première émission. Première tentative, premier feu. Première fin, après le premier début. La semaine prochaine, il y a le collectif d'entraide à la rédaction à 19h. Et il y a à 17h, un autre encart. Si vous avez envie de venir rejoindre l'aventure, apporter un petit caillou, une petite pierre, un gros galet, un gros rocher, une montagne ou même du sable. Toute forme d'apport est bienvenue et on en parle ensemble donc à partir de 17h au 40 rue Alfred Duméril. En attendant, vous pouvez utiliser la vieille adresse du lefrontdulundi@gmail.com. Tout ça, c'est sur le site de Canal Sud, canalsud.net, sur le grand internet. Voilà, c'est fini, il est 8h.
Radio Canal Sud, 92.2, 40 rue Alfred Duméril, numéro de téléphone 05 61 53 36 95. Pour l'antenne et pour le bureau, c'est le 05 05 61 25 95 43. Voilà. Canal Sud de 92.2. Voilà.